bienvenue à tous sur la route 66, c'est l'émission des Basic Roots sur Radio RDL 101.5 FM avec Jean-Luc et David.
Dans une série noire américaine des années 1950, John Cassavetes, ou Cassavetes pour les plus puristes d'entre vous, incarnait le rôle d'un pianiste de jazz sans le sou. Ce dernier, nommé Johnny Staccato, après avoir échangé sa carte de syndicat des musiciens contre une licence de détective privé, se lançait à l'assaut d'affaires aussi sordides que peu lucratives. De bars enfumés en clubs de jazz mal fréquentés, ces 27 épisodes de 25 minutes chacun nous présentaient un New York sombre, regorgeant de coins, de rues hostiles où la mort pouvait aussi vous attendre au tournant de grandes avenues. C'est peut-être en s'inspirant de cette atmosphère particulière que Brian Setzer s'est décidé à enregistrer un nouvel album avec son grand orchestre. Si de nombreux titres regorgent d'une pêche dont seul le célèbre guitariste a le secret, d'autres plus intimistes nous ramènent dans des ruelles sombres, lorsque sous les néons de l'hôtel des cœurs brisés, nous sommes contraints de relever des cols de nos imperméables pour nous protéger d'une fine pluie de novembre glacial. L'album Songs from the Lonely Avenue nous ramène à ces périodes de doute, de tristesse et de profonde solitude. Pire que tout, Brian Setzer y évoque, avec le talent que nous lui connaissons, la douleur la plus insupportable qu'un homme puisse connaître. L'abandon et la déchirure qui suit l'annonce fatale lorsqu'une femme vous dit qu'elle ne vous aime plus. Un sujet manquant singulièrement de légèreté pour commencer cette émission. Un nouveau numéro de Route 66 qui s'ouvre en effet avec le mélancolique et profond « My baby don't love me blues ».
My baby, she don't love me. She's never thinking of me. I guess I got my baby don't love me blue. If it's true what I'm thinking, she's on the town slinking all around. My baby don't love me blue. If I ever get to China, I'm gonna dig a hole to Carolina. I guess I've got my baby don't love me blue.
Blue.
Jeune groupe de blues acoustique festif formé entre Corbeil et Fontainebleau, les Cotton Bellies nous offrent un premier album éponyme particulièrement réussi. L'extrait tiré de cet opus que vous allez immédiatement entendre est Lazy Hole.
My sugar just survive, and it's strange life, but it's my life, and now if it's all I like, show me and watch you near. Everybody got a baby, baby, yeah. When they told me to fight, I knew I couldn't make it. Though I went out of sight, I knew I couldn't take it. She tell me what to do, I say I don't have the time. She asked me if I'm true, I say I know what it's like. Show me and watch you near.
This is Pura Fe, and you're listening to Route 66 Radio RDL 103.5 FM.
Down there, that's where we land. I saw a fallen star burn up above the Las Vegas sand. The simple one that you gave to me, but not down there, south between the trees. I think of the one that you could wish upon, not the one that flies in the sailor. Oh, stop right, stop right, you got love and I like the right now. Turn this crazy bird around. Let go all the spirit tonight. Yeah. You got the love that's so gentle and sweet. You got that look so critical. I can't talk to your baby, got so green. Sometimes I think that love is just mythical. But there's a heaven down, there's a town. It's everywhere little lights shine. Black is dragging me down. Oh, come on, light this candle in this poor heart of mine. Star bright, you got the loving light.
L'Indienne Tuscarora Purafe avec l'album Full Moon Rising. Cette touche à tout de génie prouve qu'elle se plaît à mélanger la fée électricité à des sonorités plus traditionnelles. L'une des rares reprises de ce CD est le morceau Height Tonight de Joni Mitchell que je viens à l'instant de vous faire découvrir. Nous allons maintenant consacrer une quarantaine de minutes à un artiste français aussi discret que talentueux. Né au Vietnam d'une mère asiatique et d'un père militaire français qui y était établi, Pat Boudolamo a passé ses premières années dans une atmosphère feutrée et très riche culturellement. C'était du côté d'Hanoï. À son arrivée en France, il a grandi dans un milieu beaucoup plus populaire, mais a continué à se passionner pour la littérature, puis pour le blues. Entre Arthur Rimbaud et Muddy Waters, il s'est rapidement forgé une personnalité artistique attachante, devenant l'un des guitaristes français les plus influents. Cet ex-directeur artistique du club, le Front Page, a accompagné beaucoup d'artistes anglo-saxons lors de leur venue en Europe. Ceci grâce notamment à Leadfoot Rivet, qui l'a positionné dans le circuit. C'est d'ailleurs lors de la tournée commune de ce dernier en compagnie d'Amos Garrett que j'ai enregistré l'interview qui va suivre. Cette dernière a été réalisée à l'occasion de la sortie du nouvel album de Pat Boudolamo, Science Inexacte. Puisque je n'aurai pas le temps de vous diffuser l'intégralité de l'entretien, je vous invite sans plus attendre à lire la transcription complète qui en a été faite sur le site de l'émission sur laroute66.free.fr. Célébrons tout de suite ce cher Pat et place à la musique avec Paris Lumière, extrait du CD cité précédemment.
Ça se passe en bas de chez toi. Paris lumière, banlieue poussière, chaud devant et feu arrière, un cache-misère, un visage de couvert. Yeah. et lumière, banlieue poussière, regard croisé, verbe incendiaire. Sur l'écran plat, nos reflets volent en éclats.
Moment as-tu vraiment commencé à te lancer sérieusement, j'entends par là de façon quasi professionnelle en tout cas, te produire?
Oui, c'est venu assez rapidement en fait. Hein, en fait, les opportunités pour moi de jouer, c'était de jouer avec des groupes de bal. J'habitais en province, puis je faisais, j'aimais le rock, j'aimais le blues, etc. Mais c'était l'époque où les groupes de bal s'ouvraient au rock'n'roll. Alors, parce que avant ça, il y avait des orchestres qui faisaient exclusivement de la musette, etc., qui jouaient de l'accordéon. Et puis après, t'avais des groupes qui avaient des quarts d'heure de rock dans un truc, et ils intégraient. Et moi, j'étais un petit peu la caution rock'n'roll, si tu veux, Beatles, Rolling Stones, etc., d'un groupe de bal de ma région. Qui étaient eux des vraiment ce qu'on appelle c'est pas du tout péjoratif, qui étaient vraiment balochards, qui étaient eux aussi attirés par le rock, mais qui ignoraient complètement cette musique. Et donc moi je gagnais un petit peu ma vie comme ça au départ, quoi, avant de venir à Paris, quoi.
Ce qui a été une nécessité pour toi, je présume.
Oui, totalement, parce que moi j'étais encore à ce moment-là j'étais encore au lycée, etc. Et puis c'est là où j'ai décidé de quitter le Bahut pour monter à Paris, où je savais que tous les musiciens, tous les comédiens échouaient un jour ou l'autre, quoi. S'ils voulaient sortir un petit peu d'un contexte, on va le dire quand même un petit peu limité et étriqué de la ville de province où j'habitais, quoi. À l'époque, c'était le cas. Parce qu'à l'époque, tu sais, 50 kilomètres, c'était énorme. Hein. Je te parle de la fin des années 60, milieu des années 60. Les distances étaient très différentes de maintenant. Maintenant, pour un oui, pour un non, on va passer un week-end à Rome. À cette époque-là, faire 50 bornes, c'était carrément dingue.
Et justement, quelles ont été tes premières connexions sur Paris, tes premiers amis? Je pense qu'il y a des gens tels que Mauro Ceri en ce qui concerne ta génération.
Ah bah il a été fondamental, Mauro, parce que c'était un petit peu le roi de la guitare de la région où j'habitais. Et puis on a fait connaissance et il s'est trouvé par hasard qu'on a monté un groupe. Il y avait Mauro, il y avait Jean-Michel Cagedan, dont tu as peut-être entendu parler, qui est un très grand musicien. Et puis il y avait un batteur qui habitait Melun, qui s'appelle Jeff Gauthier, qui maintenant joue avec Paul Persson. Et donc on avait un groupe ensemble, et puis on avait monté un répertoire, etc. Et puis on a joué un petit peu en Seine-et-Marne, et on a décidé de monter à Paris pour tenter notre chance.
Et comment ça s'est passé au départ? Ça a été quelque chose de facile? Vous avez tout de suite trouvé des endroits pour pouvoir vous produire? Ou alors il y a eu quand même un petit flottement, des petits moments de galère?
Bah, c'était la galère, mais à l'époque, c'était pas très difficile de pouvoir jouer. On jouait dans les fêtes de lycée, on jouait dans des boîtes, etc. Et on était déjà quand même un petit peu aguerri.
Est-ce que tu commençais déjà à composer à cette période-là, ou alors c'était encore un groupe qui ne se produisait qu'en faisant des reprises?
Le premier groupe, quand on a joué avec Moreau, là je te parle de... C'était dans les années 72-73. On a enquillé directement. Nous, on était fascinés par les groupes français, Martin Circus, qui est-ce qu'il y avait d'autres, là ça m'échappe. Mais on a composé dès le départ. On composait dès le départ en français. Et puis après, ça a échoué. On n'a pas réussi à enregistrer. Et donc là, pour gagner notre vie, on a la plupart... Jouer des reprises, quoi.
Et quelles étaient la nature de vos textes alors? C'était vraiment ancré dans la société?
Oui. Moi je dis toujours que je, et c'était valable aussi à l'époque, que je fais des chansons avec ce que j'ai sous les yeux, quoi. J'ai sous la main avec ce qui se passe, etc. T'ouvres le journal, enfin bon, tu vois, c'est... Mais toujours en essayant d'avoir un point de vue personnel, quoi. Sans trop, bien sûr, sans essayer de jamais donner de leçons. C'est ça le plus redoutable.
As-tu continué longtemps à te produire au sein de groupes, et si oui, lesquels? Ou alors t'es-tu rapidement émancipé de ces combos afin de te produire en solo?
Ah non, non, ça m'est venu très très tard de me produire en solo. En fait, j'ai toujours co-composé, j'ai toujours été assez timide de ce côté-là, et puis je faisais des maquettes chez moi que j'ai fait écouter très très tard. Je me suis décidé très très tard, à 40 ans passés, quoi. Et alors que j'avais joué au sein de pas mal de groupes ou avec des chanteurs plutôt plus ou moins inconnus, quoi. On voit toujours la face cachée de l'iceberg, elle est énorme, en fait. On voit toujours les grosses vedettes, mais il y a énormément de chanteurs. C'est comme les comédiens, on connaît que les 6 stars mais en fait t'as vraiment une flopée de très bons comédiens qui travaillent et qui sont pas connus du grand public, etc. Et donc il y avait beaucoup de groupes, beaucoup de chanteurs à cette époque-là. Il y avait des circuits alternatifs et qui permettaient de tourner régulièrement. Et ne serait-ce que il y avait toujours des voies de secours, parce qu'on est toujours plus ou moins revenu. Par exemple, en période de vache maigre, aller jouer au club Méditerranée ou jouer avec des groupes de bal, ça pouvait arriver.
Et en dehors de ces expériences, Club Med, groupe de bal, etc., est-ce que tu restais vraiment ancré dans les groupes de blues, ou est arrivé de te frotter à des ensembles qui étaient orientés plus rock, ou...
Non, moi j'ai toujours été très blues. Je suis même... Ça n'a pas la même connotation que maintenant, parce que je te dis, pendant jusqu'à très longtemps, tu vois, regarde par exemple, en 73, j'ai rencontré une nana comme ça dans une discussion. Elle était documentaliste à Libération, au journal Libé qui commençait tout juste à l'époque, et elle ne savait même pas que elle était comme moi quelques années auparavant, elle ne connaissait pas l'existence de ce mot, elle ne savait pas ce que c'était que cette musique. Je suis toujours passé pour le, je fréquentais pas mal de rockers, mais j'étais toujours le bluesman. J'étais le bluesman. Et j'étais l'amateur de blues, quoi.
No more palabras, no more palabras. C'est le portrait craché d'un moussaillon ballotté. Son voyage est perdu entre vice et la vertu.
coquille de noix, en plein soubresaut, ta remise à flot te laissera sans voix. No more, no more, no more, palabras. No more palabras, no more palabras, no more palabras. Petit pétard mouillé, devenu silice atomisé. La mariée t'a jeté d'un cœur en forme de rocher. Tu rejettes son héritage, pas de la levasse t'engage. On flingue tes oripeaux, la douleur de ta peau. No more, no more, no more palabras. No more palabras, no more palabras, no more palabras. S'additionne, c'est très net, ça rallonge. Bien trop pour un seul homme, alors tu payes et tu plonges. Les mots qui piquent, plein la bouche, rend de gorge à pleine tasse. Toujours plus souple sous la douche, mais bien plus cool à la brasse. No more, no more, no more palabras. No more palabras, no more palabras, no more palabras. No more palabras, no more palabras. No more, no more, no more palabras. No more palabras, no more palabras, no more palabras.
De quel moment as-tu commencé justement à accompagner des vedettes internationales qui venaient se produire en France, et par quel billet était-ce déjà par l'intermédiaire d'Alain Rivet?
Bah oui, parce que Alain, on a une complicité de très très longue date. On a joué, on a enregistré notre premier album. On avait un groupe à l'époque qui s'appelait Rocking Chair au début des années 80. Je crois, alors là peut-être on a fait peut-être notre premier disque en 1980, je crois. En 1980, le deuxième en 83. Donc, on a fait pas mal d'albums ensemble. Et puis, au fil des années, on s'est mis un petit peu à écrire ensemble. Et comme Alain avait mis un petit peu entre parenthèses sa fonction de chanteur pour être tourneur, donc il a toujours été amené à faire tourner des Américains ou des Anglais en France. Et donc, c'était tout à fait naturel que parfois il fasse appel à moi. Mais moi, ça m'était arrivé autrement de rencontrer des Américains. J'ai joué pendant une période, c'était au début des années 90. J'étais un petit peu polyvalent à l'époque. J'étais un fanatique de country music, rock and roll, etc. Et j'ai joué beaucoup avec une communauté parmi une communauté américaine qui est à Paris. Parce qu'à Paris, il y a des communautés, et de Togolais, je sais pas, tu vois. Mais il y a une communauté américaine très très forte. Il y a l'église américaine, ils ont leurs endroits. À l'époque, il y avait beaucoup de restaurants américains. Il y a des groupes américains, des mecs qui venaient à Paris. Et moi, j'en ai connu qui ont joué 10 ans, 15 ans à Paris, qui parlaient à peine français et on tournait tout le temps, parmi cette communauté américaine. Alors, c'était pas des big stars, etc., mais on jouait dans les festivals, beaucoup dans beaucoup de restaurants américains à Paris. Et j'ai, à une époque, ça a été même assez long, j'ai joué avec un gars qui reste un peu, ça reste mémorable pour les anciens, qui s'appelle John Ratican, qui était vraiment un bluesman extraordinaire. C'était un Américain et le groupe était complètement composé d'Américains. Et on a tourné beaucoup. D'ailleurs, ça remonte peut-être à 20 ans, 25 ans. On a joué à Mulhouse, on a joué à Colmar, j'ai joué à Strasbourg pas mal de fois. À l'époque, on tournait et c'était avant 83, 84, 85, où là, le blues a commencé à vraiment être connu du grand public, quoi. C'était un peu avant cette période.
Tu vois. Justement, est-ce que tu peux un petit peu revenir sur toutes ces collaborations avec des artistes, surtout les plus marquantes pour toi, quels sont ceux qui t'ont le plus touché?
Ça a été très marquant pour moi parce que avant, donc, je jouais avec Alain. Moi, j'étais un peu le bluesman du groupe parce que je t'ai dit, le groupe d'Alain, c'était de la country rock. Hein, je résume en grand. Et moi, j'étais pas réellement un guitariste de country. J'étais plus un guitariste de blues et j'étais un petit peu le bluesman du groupe. Et puis, ce John Ratican, qui était en fait le beau-fils d'Hugo Frey, hein, tu me suis, et qui était lui un pur bluesman dans la tradition de Chicago, très intransigeant, très snob par rapport à cette musique. Il n'arrivait pas à trouver il trouvait toujours des guitaristes mais qui étaient toujours plus rock que blues. Et en fait, j'ai été branché par Verbeek qui jouait avec ce gars-là et puis qui lui avait dit, Là, je connais un guitariste qui, lui, est vraiment blues, et ça s'est fait comme ça. Et je sais pas, j'ai joué au moins 7-8 ans avec lui. On a énormément tourné. Et c'était des hauts personnages, des hautes figures. Le batteur, le bassiste, Jimmy Gibson, un personnage extraordinaire qui était très haut en couleur, qui était très connu à Paris, et musicien fantastique, quoi. Et là, on faisait vraiment... on faisait vraiment du Little Walter, enfin c'était vraiment la figure emblématique, tu vois, Buddy Guy et Junior Wells, voilà, tous ces trucs-là. Et même à cette époque, je me souviens qu'on avait des difficultés à trouver les disques de blues, par exemple les premiers Fabulous Thunderbirds, tous ces groupes-là, on les trouvait que dans certaines discothèques à Paris, il fallait les commander, tu trouvais pas ça à la Fnac, quoi.
Et parmi les artistes qu'Alain faisait tourner et que tu as eu l'occasion d'accompagner, quels ont été ceux avec lesquels tu as eu les atomes les plus crochus?
Ah, moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Alors c'est vraiment le fait du hasard. J'appréciais bien avant ça Amos Garrett qui pour moi est vraiment à part. Mais il y a vraiment des grands artistes. Je pense à Larry Garner, à Roy Rogers, c'est extraordinaire. C'est vraiment, c'est la musique de Robert Johnson, sublimée, électrisée. Il y a vraiment de grands artistes. Et étonnamment, tu vois, Joanna Connors, toutes ces blues women, je les trouvais extraordinaires. Je trouvais toutes ces nanas vraiment fantastiques.
À quel niveau justement? C'est parce qu'elles avaient besoin de plus de courage entre guillemets pour pouvoir s'imposer dans un milieu plutôt réputé pour être un milieu d'hommes.
Parce que moi je trouve que plus ça va, plus la guitare devient technique et un peu gonflée au testostérone. Et je trouvais que ces nanas avaient un jeu plus fin. Tu vois, un gars comme Larry Garner a un jeu très fin, assez subtil, assez proche de B.B. King sous bien des égards. Parce que de ma collection de disques, évidemment, du blues, j'en étais venu au rhythm and blues, à la soul. Toi, moi, mes grandes idoles, c'est des gens comme Cornel Dupri, des guitaristes qui ont joué avec King Curtis ou Aretha Franklin, etc. Ça, c'était vraiment ma tasse de thé, quoi.
Et quand est-ce que tu as commencé à... justement te prendre en main pour une carrière solo et à jouer sous ton propre nom, puis enregistrer?
Bah, ça a été, en fait, si on, les repères biographiques, pendant la première partie des années 90, j'étais devenu directeur artistique d'un club à Paris, rue Saint-Denis, qui s'appelait le Front Page, qui a cartonné pendant 5 ans. Ça marchait, ça a vraiment beaucoup marché. Et là, ça s'était fait aussi par hasard. C'était un endroit qui démarrait, il se passait rien. J'étais allé voir le taulier en lui disant que j'organiserais bien une jam session les dimanches. Et en fait, cette jam session a été un gros succès. Et c'est de là qu'on m'a offert la programmation de cet endroit. Et évidemment, là, j'ai vu passer énormément de monde. Il y a plein de gens. J'ai des souvenirs. J'ai joué une fois avec Christine Lakeland, qui est la nana de JJ Cale, qui venait de faire son premier disque. Elle était de passage à Paris. Donc, j'ai eu l'occasion là de fréquenter énormément de monde. Et c'est là que j'ai fait connaissance avec Luther Allison, entre autres. Et donc, il venait pratiquement tous les dimanches, quand je te dis pratiquement tous les dimanches, tu vois, pour qu'on puisse. Et donc, on buffait ensemble. Et puis, de là, on a fait quelques gigs ensemble, des gigs un peu privés, quoi. J'ai même joué avec Bernard, a joué dans mon groupe, etc. Mais tout ça, c'était un peu. C'était sans idée préconçue, sans idée de marketing, sans idée de publicité, quoi. Donc, ça se sait pas tellement, quoi.
Je marche seul, décidément, ici à moi-même, parfois je mens, c'est de la peine que je ressens, la vie m'entraîne dans le courant, l'amour est une science inexacte, je confonds les noms, je mélange les dates, l'amour est une science inexacte, qui s'appréhende de manière délicate. Alors c'est vrai, mais pas chancel, sur le rebord d'une margelle, sous la voûte en arc-en-ciel, près d'un vieux pont du quai Saint-Michel. L'amour est une science inexacte, je confonds les noms, je mélange les dates. L'amour est une science inexacte, qui s'appréhende de manière délicate. Aquatique, une plongée dans l'ivresse amniotique, les profondeurs érotiques, où je me glisse et tombe à pic. L'amour est une science inexacte, je confonds les noms, je mélange les dates. L'amour est une science inexacte, que j'appréhende de manière délicate. Navigue la nuit parmi les draps blanchis d'Ophélie. Navigateur, je poursuis mes recherches en utopie. L'amour est une science inexacte, je confonds les noms, je mélange les dates. L'amour est une science inexacte, que j'appréhende de manière délicate. L'amour est une science inexacte, je confonds les noms, je mélange les dates. L'amour est une science inexacte, que j'appréhende de manière délicate.
2009, tu nous proposes un nouvel album, oui. Toujours en français évidemment. Oui. Est-ce que tu peux me le présenter, me parler un petit peu de sa genèse?
Ah, ça a été très long ce disque-là. C'était un peu un pari parce que le disque précédent, j'avais un producteur indépendant qui m'a claqué dans les pattes au moment de la sortie du disque. J'ai eu des ennuis administratifs, on va dire, par ailleurs, etc. Et plutôt que de plonger dans les procès, dans les histoires, dans le ressentiment, etc. Je me suis mis à écrire aussitôt. Je me suis dit, il faut que je fasse un disque. Et il faut que je fasse un disque par moi-même, pour moi, tu vois. Et ce disque vient de là, quoi. Voilà. C'était vraiment pour laisser derrière tout un tas de galères.
Parce que justement, ce qui se dégage de ce disque est surprenant à la première écoute. On sent vraiment une grande profondeur, voire une certaine tristesse qui s'en dégage. C'est le reflet vraiment de ce que tu ressentais au moment de l'écriture ?
Non. Mais alors évidemment, je voudrais pas te reprendre, mais je pense que j'essaye toujours. C'est toujours un peu une parade. Tristesse, je sais pas, mais j'essaie toujours d'être un peu, même à la limite, je vais pas dire du cynisme, mais non, j'essaie toujours d'avoir de l'humour en disant les choses. Mais bon, c'est clair que quand je joue, je prends les choses sérieusement et puis disons que mais j'aime Pierre Perret par exemple, tu vois. J'aime beaucoup Pierre Perret, mais je suis pas Nicordi, quoi. Non, je suis pas un joyeux de riz quand il s'agit de jouer, quoi. Quoique.
Est-ce qu'il y a des choses qui te révoltent dans la vie que tu as exprimées à travers cet album?
Oh, tu sais, elle révolte, les choses qui me révoltent en général révoltent la plupart des gens sensés, hein. Mais non, c'est l'aspect guitaristique, musical, la forme des chansons qui m'intéressait, et puis c'est clair que les textes semblent nostalgiques, mais je crois pas que tristesse ce soit réellement le. Je pense pas que ce soit le bon mot. Mais tu vois, par exemple, la première chanson, elle a été directement inspirée par les événements qui avaient lieu en banlieue où les mecs ont cramé des bagnoles, etc. Et j'essaye d'avoir une certaine distance, de faire un constat par rapport à ça, hein. Mais donc ça, c'est pas un truc qui me révolte, hein. Il y a toujours eu Spartacus, il s'était révolté, hein. On aurait été à l'époque, on aurait trouvé ça impossible qu'un esclave se révolte, quoi, hein. Donc j'essaye toujours d'avoir un peu de distance, mais de regarder. J'essaie d'être un peu témoin, où je parle de ce que je vois à droite à gauche, c'est tout.
Dans ce disque, il y a une reprise d'une chanson de Serge Gainsbourg. Mm-hmm. Pourquoi ce titre? Pourquoi avoir voulu la faire sonner blues?
Oh bah, j'ai voulu la faire sonner africaine. Si tu réécoutes bien, j'ai voulu faire sonner ça. Bah, tu sais que Gainsbourg, c'est un des premiers en France qui a fait des chansons où il y avait blues dans le titre. Il a composé, il avait vraiment une très 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 grande finesse et connaissance musicale. Bon, c'est tout bête parce que ce thème-là, le thème de Gainsbourg, la balade de Vidocq, la chanson de Vidocq, c'était le motif, c'était la bande sonore d'un feuilleton télévisé quand j'étais très jeune. Je sais plus quel âge j'avais à l'époque, 13 ans, 14 ans. C'était la bande et j'avais toujours aimé cette chanson. Et par ailleurs, je vais te faire une révélation. Moi, j'avais lu à l'époque dans un journal que Gainsbourg, en parlant de cette chanson, avait dit, ah bah, cette chanson, je l'ai piquée à Bob Dylan. Et effectivement, cette chanson, c'est le repiquage de la balade de Hollis Brown. Tu réécouteras, c'est la même tonalité, ta-ta-ta, avec le ré ouvert, etc. Donc, ça fait partie du patrimoine folk, Hein, et Gainsbourg a fait un texte, mais vraiment précis, le moindre mot compte. Cette chanson, j'ai toujours aimé cette chanson quand j'étais ado, et j'ai eu envie de la faire.
Maintenant que le disque sort, oui. Quels sont les objectifs que tu souhaiterais atteindre avec celui-ci ? C'est plutôt une carte de visite pour te permettre de tourner davantage sous ton propre nom ?
C'est toujours un peu ça, hélas. Et c'est jamais très facile. On est dans une période où il n'est pas très facile de paradoxalement, malgré Internet, etc., pour faire écouter sa musique. Mais il faut essayer de créer un petit buzz. Et c'est tout récent, hein. J'ai eu cet album avant les vacances. Alors évidemment, pendant les vacances, il s'est rien passé. Et là, donc, je fais mes envois tranquilles. Je commence à récolter des articles de presse, des critiques, des chroniques. Et puis, effectivement, j'aimerais bien tourner plus avec. J'aimerais jouer plus.
Jamais laisser enchaîner, ne saura jamais ce qu'est la liberté. Moi oui je le sais, je suis un évadé. Faut-il pour voir un ciel tout bleu, supporter un ciel noir un jour sur deux. Je l'ai supporté, je suis un évadé. Faut-il vraiment se laisser emprisonner pour connaître le prix de la liberté? Moi, je le connais, je suis un évadé. Les soleils disparus, je les vois briller, je suis un évadé.
Bonjour, c'est Pat Boudolamo. Je suis bien content d'être en Alsace, dans l'émission Route 66 sur RDL. Thank you.
Que nous allons conclure cette petite séquence consacrée à Monsieur Pat Boudelameau qui vient sortir un nouvel album qui s'appelle Science Inexacte. Les morceaux qu'on s'est diffusés étaient Paris Lumière, No More Palabras, Science Inexacte, la balade de Vidocq évidemment, et à l'instant le Déhancheur enregistré en duo guitare harmonica. Et quel harmonica, celui de Greg Zlap, pardon. Il est vrai que Pat Boudelameau a été l'un des premiers à se produire avec cet harmoniciste devenu célèbre depuis. À titre d'information, j'aimerais quand même vous signaler que le disque de Pat, vous pouvez le trouver et le commander sur son site internet www.patboudelameau.com, patboudelameau.com. Je répète, www.patboudelameau.com. C'est un très très bon CD, entièrement réalisé et produit par Pat, hein, et donc distribué très difficilement, mais vous pouvez le commander sur son site internet. Avant de conclure l'émission, j'aimerais rappeler quelques concerts à venir dans la région, toujours au Kafkons d'Ensisheim, les 17 et 18 novembre. Un bluesman irlandais qui commence à être bien connu de ce côté-ci de l'Europe, monsieur Pat McManus, et le samedi 21, un groupe de pub rock presque légendaire pour la France. Ils ont déjà tourné au Japon, ils sont excellents, c'est les Shaggy Dogs. Ne ratez surtout pas ces concerts à venir la semaine prochaine au Kafkons d'Ensisheim. On se quitte avec un extrait d'un CD composé de titres instrumentaux interprétés par des guitaristes de renommée internationale. Il s'agit de l'album Jam on Guitars, sur lequel vous retrouverez Michael Lee Firkins, né dans le Nebraska en 1967. Il y interprète en compagnie notamment du clavier des Allman Brothers et des Rolling Stones Chuck Leavitt le titre que voici, Took the World Right Out of My Mouth. Et voilà, donc c'est le moment de se quitter. On se retrouvera la semaine prochaine. J'essaierai d'être en forme un peu plus olympique et de moins bafouiller et de me soigner. Bonne continuation à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité et à très bientôt sur la route 66.
Ciao à tous et bonne semaine sur la route 66. Thank you.